L'histoire de l'humanité devient malléable. On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
1968, Cannes, la prise de parole.
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Aujourd'hui ou demain, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
Godard, la prise de parole, c'est ainsi que Michel de Certeau cherchait à définir en trois mots mai 1968. Le mouvement du printemps ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur le festival. Plus encore le mouvement étudiant que la grande grève générale qui commence. Le jury du festival est souvent présidé par un écrivain français, cette année-là encore. Régis Debray soutient que le festival appartient toujours à la graphosphère plus qu'à la vidéosphère. En tout cas, il est concerné au premier chef par ce qui se passe dans le monde de l'intelligence parisienne. Celui-ci s'était d'ailleurs soulevé comme un seul homme les mois précédents quand le ministre Malraux avait voulu remplacer à la tête de la Cinémathèque son père fondateur, Henri Langlois. Si dans l'ébullition qui suit en mai à Paris, les étudiants et les professionnels de la profession commencent à se réunir en états généraux du cinéma, comment les festivaliers à Cannes hésiteraient-ils à prendre le Vieux Palais, qui devient, à l'étonnement général, l'équivalent de la Bastille sur la Croisette? Il n'y a pas de mur à escalader, il suffit de se pendre au rideau pour l'empêcher de se lever. C'est chose faite le 18 mai, et dès le lendemain, le gouverneur du festival, Robert Favre-Lebray, rend les armes. Deux fois déjà depuis sa refondation après-guerre, le festival n'avait pu avoir lieu, faute de budget. L'arrivée de la nouvelle vague avait marqué la fin de son enfance. En 1968, avec l'interruption de sa 21e édition, la majorité était alors à 21 ans, il passe le cap de l'adolescence.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Un appartement très haut. Ah, bon, je vais essayer. Parce que vous savez, l'appartement très haut, maintenant, il n'y en a plus, ils sont tous pris, vous comprenez. Moi, j'ai pensé qu'elle... Je lui avais parlé du Carlton quand j'ai déjeuné avec elle. Ah bah oui, mais samedi, c'est déjà très tard. Vous comprenez qu'il y a déjà des mois que toutes les réservations sont faites.
Alors, il m'a dit 2h30, hein.
Alors, 2h30, ça fait 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. C'est tard.
Allô? Monsieur Kalanka? Allô? Oui? Ah, bonjour, monsieur Kalanka. Très bien vous-même. Alors, écoutez, j'ai pas pu avoir les chèques, parce que, vous savez, c'est très difficile d'avoir pas de téléphone.
C'était le gouverneur du festival, le délégué général de l'époque, Robert Favre-Lebray, et... toujours empreint de son esprit d'enfance, Michel Simon, qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Critique à Positif, à des piliers de Positif, parce que Positif ne repose jamais sur une seule personne.
Non, il n'y a pas de rédacteur en chef.
Et critique de cinéma, disons depuis le début des années 1960, ayant fréquenté Venise, San Remo, Locarno peut-être, et Cannes un tout petit peu plus tard. Vous avez une chambre d'hôtel là, pour Cannes cette année?
Oui.
Plus modeste que celle qu'exigent les vedettes auprès de Favre-Lebray, non?
Oui, mais je me contente de... petit hôtel très sympathique.
Et vous y êtes donc pour la...
48 ans.
Pour la 48e fois, Michel Simon. On va raconter ce festival particulier. C'est juste de dire que c'est le festival de la crise de l'adolescence. On a entendu Godard en ouverture. Godard, dont vous dites souvent que il n'a pas vraiment l'esprit d'enfance, il a l'esprit de l'adolescence.
Oui, c'est ça. Oui, je crois qu'il a jamais grandi vraiment, mais génialement, c'est un adolescent génial, mais à 84 ans, c'est peut-être un peu gênant de rester un adolescent génial, mais je lui dois tellement de plaisir avec des grands films comme Le Mépris ou Pierrot le Fou que Voilà, je ne ferai pas d'autres... Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il allait faire ce film ouvrier, cet extrait que vous avez cité de cette conférence de presse où Truffaut, Godard, Claude Béric, Claude Lelouch demandaient l'arrêt du festival, parce qu'on ne parlait pas des films ouvriers dans le cinéma. Eh bien, il a fait, 4 ou 5 ans plus tard, un de ses moins bons films, c'est Tout va bien, avec Yves Montand et Jane Fonda, qui se passait dans une usine.
Alors, on va parler de la sélection, dont on a vu qu'elle devait comporter des tchèques, puisque c'était difficile, dit le délégué général, d'avoir Prague au téléphone. Alors vous, vous avez été un des pionniers de ceux qui reconnaissaient l'importance du cinéma tchèque.
Oui, c'était bon, j'avais 25 ans, effectivement, je commençais à écrire dans Positif et j'étais passionné par la découverte de tous ces nouveaux cinémas dans le monde, parce que c'est pas seulement la nouvelle vague en France, il y a eu les Japonais, les Brésiliens, etc. Et il y avait les Tchèques. Et j'étais allé au festival de Karlovy Vary en Tchécoslovaquie, un grand festival à l'époque, très, très important. Et il y avait là Chytilova, Miloš Forman, etc. Et d'ailleurs, dans ce festival même de 68, il y avait trois films tchèques. Il y avait d'abord Au feu les pompiers, qui était un titre un peu prophétique par rapport à ce qui allait se passer à Cannes cette année-là. Mais il y avait aussi donc de Miloš Forman. Il y avait La fête et les invités de Jan Niemetz, un film d'inspiration plutôt surréaliste. Et puis il y avait L'été capricieux de Jerry Menzel, d'après Rabal, un romancier très connu tchèque. Et là, lui, c'était plutôt le côté un peu doux, amer. Voilà, c'était trois cinéastes extrêmement importants qui se retrouvaient tous les trois sur la croisette.
Chance perdue pour le cinéma tchèque. Mais vous me direz que le mouvement de mai 68 n'était pas tellement attentif au printemps de Prague qui se déroulait à cette époque-là en Tchécoslovaquie.
Bah, c'était un peu gênant parce que le printemps de Prague disait qu'on n'était pas content du socialisme, ni surtout du communisme, et qu'il fallait changer tout ça. Il fallait chasser la dictature, il fallait chasser les censeurs, il fallait donner plus à manger au peuple, etc. Donc c'était un peu troublant, quoi. Donc on ne tenait pas tellement à en parler. Voilà. Et c'est sûr que. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que Miloš Forman, qui était en compétition, mais dont le film n'a pas pu être montré, et puis Roman Polanski, qui était au jury et qui a démissionné du jury un peu par la force des choses, il pouvait pas faire autrement. Ils étaient un peu stupéfaits. Ils disaient mais on comprend pas parce que nous on fuit ces régimes-là et vous essayez de nous les instaurer dans votre pays, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais 68, c'est pas le communisme stalinien. Mais néanmoins, ils étaient un peu sidérés que on se jette dans cette révolution auquel eux-mêmes ne croyaient pas, parce qu'ils avaient vécu, et en Pologne et en Tchécoslovaquie, les sévices du communisme.
Puis il y avait deux films hongrois de Miklós
Jankso, où il y avait Rouge et Blanc, surtout, qui était également en compétition. Non, d'ailleurs, quand on dit que le Festival de Cannes est devenu très cinéphile, etc., faut pas exagérer. Je veux dire, le Festival de Cannes, c'est vrai que Il a beaucoup changé à cause de mai 68, parce que l'année d'après, en 69, les réalisateurs de films ont créé la quinzaine des réalisateurs. Et la quinzaine des réalisateurs, ça a été un contre-festival. Alors, si le Festival de Cannes montrait des grands films, il y avait le Je t'aime de René, il y avait Pétulia de Lester, il y avait Pépermine frappée de Sora, donc il y avait de très beaux films. Néanmoins, ils étaient plutôt fermés à la nouveauté, et c'est vrai que la quinzaine des réalisateurs va devenir un contre-festival qui va découvrir énormément de gens, Fassbinder, Werner Herzog, etc., Oshima, et ça va changer Cannes.
C'est-à-dire Cannes. Mais il y avait tout de même la semaine de la critique.
Il y avait la semaine, il faut le dire, d'ailleurs j'en étais sélectionneur à l'époque, il y a eu la semaine de la critique à partir de 62, mais c'était 7 premiers ou deuxièmes films, tandis que la quinzaine, à cause de l'argent aussi, de la publicité, de la présence des metteurs en scène, avait 20 films qui devenaient une sorte de contre-festival, et ça a aidé Cannes à se rajeunir.
Ne brûlons pas les étapes, Michel Simon, il faudrait raconter le tout début, le festival commence, K1K, il y a une séance d'ouverture, avec les belles personnes qui montent les marches. La séance d'ouverture, c'est « Autant on emporte le vent ».
Voilà, d'ailleurs, les titres sont amusants quand on voit avec le recul « Autant on emporte le vent » comme prémisse de ce festival. Il y avait un autre film en compétition qui s'appelait « Trois petits tours et puis s'en vont » de Clive Donner. Et puis, comme je l'ai dit, « Au feu les pompiers ». Donc ça annonçait les secousses qui allaient arriver. Et vous avez dit à juste titre qu'il y avait beaucoup d'écrivains. Là, cette année, c'était André Chanson qui était président. Ça a bien changé, il n'y a plus d'écrivains. Avant, il y avait Marcel Achard. Les écrivains se succédaient à la tête de Cannes. Et puis, il y avait une seule actrice. Aujourd'hui, il y en a au moins 4 dans chaque jury. C'était Monica Vitti. L'année où j'y étais, c'était Liv Ullmann. Donc, il y avait très peu d'actrices. Mais il y avait des gens qu'on a complètement oubliés, comme Paul Cadeau d'Arban. Je sais pas qui c'est.
C'est un producteur, monsieur Simon. Voilà, J'ai vérifié Wikipédia hier, puis, parce que je savais pas du tout qui était ce monsieur.
Voilà. Il y avait Louis Malle, en particulier, qui était également au jury.
Alors, on n'a pas oublié le nom de Robert Chazal, journaliste à France Soir, et dont les enfants, comme ceux de beaucoup des participants de Cannes, eh ben, sont au Quartier Latin et qui s'inquiètent.
C'est ma femme qui m'a appelé en me disant « Dis donc, je suis un peu embêté, Jean-Marie, c'est mon fils aîné, est à la Sorbonne, Gilles se balade en blouse d'infirmier pour porter du lait, je ne sais pas, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» D'ailleurs, je me suis précipité chez un marchand de poste de radio et j'ai demandé un transistor et j'ai dit au type « Un transistor uniquement pour les informations ». Alors le gars m'a regardé, il me dit « Monsieur, ça n'existe pas, vous entendrez de la musique ». Et j'ai ramené ce transistor et je me rappelle toujours que j'ai monté les escaliers, c'était le vieux palais, j'ai mis mon transistor sur, au premier étage, là, au corbeil, mais à l'extérieur, et j'avais autour de moi 100 types qu'on découvert tout d'un coup, puisque c'était on a tout entendu derrière ce qui se passait. C'est là qu'on a réalisé.
Vous renseignez sur la manifestation. Oui, en direct. Vous êtes sur l'antenne.
Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Alcabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain, et trois fois, les manifestants ont chargé les CRS, trois fois, les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS. Ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
Vous avez noté la présence de Jean-Pierre Elkabbach, déjà, vous qui êtes sensible à la question de la longévité à la radio, Michel Simon. Il y a eu une manif le 13 mai, mais on entendait parler là de l'ancien palais qui peut devenir un chaudron, parce que à la différence du bunker d'aujourd'hui, on s'y retrouve aisément.
Oui, c'était très intime en fait. Moi, quand j'étais membre du jury, c'était 10 ans plus tard, mais c'était encore l'ancien palais. On circulait sur la Croisette, on parlait avec les gens, on s'asseyait au Blue Bar. Les membres du jury, il y avait Konchalovski, il y avait.
Là, vous parlez de 78.
Ouais. Voilà, et on s'en dit oui, mais je veux dire, c'était la même ambiance qu'en 68. En fait, Cannes n'a pas beaucoup changé. C'est ça qui, à part la quinzaine des réalisateurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que tous ces révolutionnaires en 68, l'année d'après, ils étaient en nœud papillon, en smoking, et ils montaient les marches. Alors qu'en Italie, on dit que les Italiens, c'est des gens versatiles, qui changent de veste tout le temps. Pas du tout. Venise a été interrompue la même année que Cannes, et ensuite, pendant 7 ans, il n'y a plus eu de festival de Venise. Plus de festival. C'était un contre-festival dans les rues de Venise, avec Pasolini, etc. Tandis que les Français, comme si de rien n'était, l'année suivante, tout redevenait dans l'ordre et le smoking était de rigueur.
Bon, je sens que vous allez dire du mal de Truffaut, dont vous n'aimez pas tous les films, avait été exclu comme journaliste trop critique par Favre Lebray en 57, qui était revenu en 59 comme réalisateur triomphant.
En 58, à ses frais. En 58, il est revenu comme critique à ses frais. Mais il faut dire que Truffaut avait tout à fait raison. Il avait, par exemple, l'année en 57, il avait écrit un article sanglant en disant « Cannes va mourir si on change ». Change pas. Il disait, la loi du Seigneur de Wyler, qui est un film académique médiocre, a été préférée à Canal de Vajda, au septième saut de Bergman, aux Nuits de Cabiria de Fellini, et un condamné à mort s'est échappé de Bresson. Truffaut était un très grand critique.
Le 18, il revient, porte-parole des états généraux du cinéma qui commence dans la capitale.
L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival, afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les États généraux du cinéma français.
Les États généraux du cinéma français, qui étaient aussi le prolongement de ce qui s'était passé 2 ou 3 mois auparavant, au moment de la crise de la Cinémathèque dans la capitale.
Oui, absolument. C'est-à-dire, on a dit que l'affaire Langlois était le prélude à mai 68, dans la mesure où, effectivement, c'était un premier rassemblement d'intellectuels, d'artistes, etc., pour défendre Henri Langlois, qui avait été chassé de la Cinémathèque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si le festival s'est arrêté le 19, si le 18, il s'était accroché au rideau de Pépermé de Frappé, la veille, le 17, il y avait une conférence de presse de Godard et de Claude Berry et de Truffaut pour reparler à la presse internationale de l'affaire Langlois. Donc, on voit un lien très étroit qui se perpétue à Cannes même.
Alors la séance après la proclamation, la lecture de François Truffaut, on en a beaucoup de souvenirs, et on a même un verbatim. On est passé comme à positif au vote, non ? À positif, on vote ?
À positif, on vote tout le temps, oui. Mais il y a quelqu'un, il y a un étudiant qui a proposé de voter, et Truffaut a dit « Je n'ai jamais, de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, voté. Je vais tout de même pas commencer aujourd'hui. » Donc il n'y a pas eu de vote.
Et Truffaut, il ne votait pas parce qu'il était hyper démocrate ?
Non, je crois que Truffaut était ce qu'on appelle de droite, c'est-à-dire qu'il faisait pas de politique dans sa jeunesse, mais enfin, il fréquentait beaucoup l'extrême droite.
Je sens que vous allez dire du mal de Truffaut.
Mais
encore.
Non, c'est pas du mal, c'est la vérité historique. Quand je parle de Cazan, je dis qu'il a donné des noms à la commission de McCarthy. Il faut dire les choses. Même quelqu'un que j'admire beaucoup, il faut dire les points noirs. Truffaut, dans sa jeunesse, à 25 ans, était un très grand ami de Rebattet, l'auteur des Décombres, grand pamphlétaire antisémite qui avait fait de la prison pour collaboration. Et il l'a accueilli à sa sortie de prison. Il lui a payé un voyage en bateau mouche sur la Seine. Et il a fait un dialogue avec lui dans un journal d'extrême droite. Tous les dimanches, c'est le vieux et le jeune critique qui dialoguaient en toute fraternité.
Et là,
il faut dire les choses. Je veux dire, ça veut pas dire que Truffaut c'est un brillant critique. Il a fait de très beaux films, mais il fréquentait comme Godard. D'ailleurs, c'est des gens qui étaient beaucoup plus proches de l'extrême droite. Ils ont eu d'un seul coup une conscience politique qui a été d'ailleurs éveillée par la religieuse. C'est-à-dire que Truffaut avait dit, par exemple, la censure n'existe que pour les lâches. C'est une phrase de lui très mémorable. La censure n'existe que pour les lâches, parce qu'un film d'Autant Lara avait été interdit sur l'objection de conscience. Mais dès le moment où la religieuse de Rivette, 2 ans avant mai 68, a été interdite par le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, Truffaut a pris feu et flamme parce que son copain Rivette était interdit. Mais il s'est intéressé à la censure quand c'était Rivette qui en était la victime.
J'ouvre une parenthèse concernant la vie personnelle, le passé de Michel Simon. Quand je lis Le cinéma en partage, un livre que vous avez fait paraître chez Rivage il y a peu, j'observe que vous aimez beaucoup l'histoire du cinéma de Rebattet.
Je j'aime pas beaucoup. Je dis que l'histoire du cinéma de Bardet chez Brasillac.
Oui, ah pardon, c'est l'histoire de la musique de Rebattet, voilà, et voilà. Vous aimez beaucoup l'histoire du cinéma
mais
de Brasillac.
Mais Rebattet Vineuil, c'était son pseudonyme, était aussi un bon critique. Non, ce que je dis, c'est que quand j'étais jeune, je ne faisais pas confiance aux histoires du cinéma, mais je préférais, parce que l'extrême droite est plus intéressée par l'esthétique que l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, c'est l'idéologie. Et Sadoul, ça a beaucoup plus vieilli, parce qu'il avait des œillères, tandis que Brasillac pouvait aimer Eisenstein. Voilà, il pouvait aimer des gens qui n'étaient pas de son église.
Alors, je vous cite là exactement, « J'ai horreur de la pureté intégrale, des coupeurs de tête et de l'absolu. » Alors, comment voyez-vous ce débat qui a eu lieu le 18 mai, après cette lecture de Truffaut, à la lumière de votre position personnelle en toutes circonstances ?
Bah écoutez, moi j'étais dans le mouvement de mai 68 et je ne le regrette absolument pas. D'ailleurs, Cohn-Bendit est resté toujours ma boussole depuis 50 ans. Je pense que c'est une des rares personnes dont le jugement politique me paraît la plupart du temps tout à fait adéquat. J'étais avec mes élèves au lycée de Suresnes, j'étais professeur d'anglais, j'écrivais bien sûr par ailleurs. Et j'aurais pu aller à Cannes pour la première fois en 68.
Ah, vous n'y êtes pas allé finalement ?
Je n'y suis pas allé parce que je préférais être en grève au lycée avec mes élèves et aussi fréquenter un peu à Nanterre les états généraux du cinéma. Plutôt que d'aller à Cannes. Et bien m'en est arrivé, puisque Cannes a été interrompu. Je serais allé pour rien. Donc, la morale a retrouvé la pratique.
Je vous raconte ainsi qu'à nos auditeurs la suite. Nous sommes maintenant le 18 mai. Voici un flash. Tiens, c'est Pierre Bouteiller. C'est drôle. À l'époque, il était sur Europe 1. Il y a de ces allers-retours entre France Inter et Europe.
Qui donc a dit qu'il ne se passait jamais rien au Festival de Cannes ? Robert Favre-Lebré, le patron du festival, a essayé d'avoir les opposants au forcing en faisant éteindre dans la salle et en faisant commencer la projection du film espagnol, mais les manifestants ont coupé le son et ils se sont agrippés au rideau qui, de ce fait, n'a pas pu se lever. On projetait donc un film sur un rideau gris agité de soubresauts, autant dire qu'on n'y voyait rien, on n'entendait rien non plus. Dans la salle, les Cannois désœuvrés du samedi, qui avaient l'occasion unique d'aller au cinéma gratuitement, car l'entrée de ce happening était libre, les Cannois criaient « Projection, projection !» Le chahut reprenait.
« Que te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Mi enhorabuena a los dos. Pero Pablo es mucho mayor que tú.
Estás loco, Julián.
Todos tenemos nuestras manías. Las mujeres tienen que ser delgadas, esféricas. Por eso hay que hacer ejercicio, Ana.
Pues eso es lo que debe ser una mujer moderna. La chose qui m'a le plus ému, moi, personnellement, c'est de voir Carlos Saura, qui est un metteur en scène pour qui j'ai une grande tendresse, un metteur en scène espagnol, qui est un homme de gauche, qui arrivait là avec son premier film, le plus grand espoir de sa vie d'être montré à Cannes. Et Carlos Saura se trouvait pris dans la situation suivante, ou bien demander qu'on passe son film, car après il n'avait plus aucune chance de faire la carrière internationale qu'en fait il a faite, ou de prendre le parti de ceux qui demandaient. Et il a pris le parti de ceux qui ont demandé d'arrêter le festival. Et j'ai trouvé que ça avait dû être pour lui, évidemment, un cas de conscience extraordinaire, et qu'il l'avait tranché d'une façon qui m'a beaucoup touché.
C'était Gilles Jacob qui s'exprimait. Alors, correction de Michel Simon, c'est pas tout à fait le premier film de Carlos Saura. Bon, passons.
Oui, c'est pas grave.
Quand même, le cas de conscience pour ce grand cinéaste. La reconnaissance, ou bien participer lui-même au boycott de son film.
Ah, absolument. Il a tranché courageusement. Mais vous savez, ce qui est intéressant aussi dans cette sélection, c'est qu'il y avait Je t'aime d'Alain Resnais. Or, Alain Resnais avait une histoire très compliquée avec Cannes. On avait refusé Hiroshima mon amour pour ne pas déplaire aux Américains. On avait refusé l'année dernière à Marion Bade parce qu'il avait signé le manifeste des 121. On avait refusé Muriel ou Le temps d'un retour parce qu'il parlait de la torture en Algérie. On avait refusé La guerre est finie parce que ça déplaisait au général Franco. Et voilà qu'enfin, après 4 refus, il se retrouve en compétition et le festival s'arrête. Il s'en est jamais plaint parce que Resnais, c'était l'élégance.
Il y a d'autres films de la sélection qui portent des regrets. Moi, j'ai vu La motocyclette.
Non, parce ça, il n'y a pas à regretter.
Si, moi, c'est le premier film interdit aux moins de 18 ans que j'ai vu, alors que je n'avais pas 18 ans.
D'après André-Pierre de Mandiard. Oui.
Première production érotique à destination des classes moyennes.
Oui, ça a dû vous émouvoir.
Je m'en souviens très bien.
Cinéphiliquement parlant.
Pas d'autres regrets éternels.
Il y a Pétulia, qui est un film merveilleux. J'ai cité déjà de Richard Lester. Il y a le film de René, qui est un film magnifique qu'on a redécouvert. Charlie Bubbles, qui est le seul film de Albert Finet, merveilleux premier film, il n'en a pas fait d'autres. Non, il y avait beaucoup de choses, vous avez cité Rouge et Blanc de Yang Cho, il y avait de très très beaux films en sélection.
Mais j'essaye de vous amener sur une position de droite, parce que Favre Lebray, le délégué
c'est
général,
l'air du temps, c'est l'air du
il
temps.
Dit, mais regardez tous ces chefs-d'œuvre qui nous sont interdits, et puis le festival n'a pas à être une tribune politique, et puis... Le commerce cannois, vous étiez trop petit budget pour l'intéresser, va être sinistré. L'image de la France à l'étranger écornée. Voici, avant d'autres critiques, celui du Parisien Libéré. À l'époque, le Parisien Libéré, c'était le journal d'Émilien Maury. Il était très marqué à droite. André Lafargue.
Nous faisons vraiment trop Marie-Chantal de la politique en ce moment. On reçoit à Cannes des gens qui sont venus de tous les pays pour voir des films. Je crois que les problèmes purement intérieurs français ne les concernent pas directement et ils n'ont pas à en pâtir.
Le cinéma, pour moi, est un outil qui s'engage. Ce n'est pas du tout un divertissement, c'est beaucoup plus que cela. C'est un outil et une arme de culture.
Il s'agit simplement d'une mesure de salubrité publique. Il fallait prendre position obligatoirement vis-à-vis de choses qui sont monstrueuses. On l'a fait que si on avait été égouttié ou si on avait été ramassé les papiers de caramel dans la salle, on l'aurait fait aussi. C'est tellement évident. Nous sommes simplement des hommes qui avons à peu près le courage de nos opinions. Tout au moins, on essaye. On l'a fait, je m'en félicite, même si ça doit paraître ridicule.
Robert Chazal, François, qu'on ne savait pas aussi bout de feu, et auparavant, Jean-Louis Bory, dont la position était assez prévisible.
Michel oui, Simon. Mais en même temps, je comprends Bory et il avait parfaitement raison. C'est-à-dire, c'était impensable avec l'absence d'essence, sur tout était bloqué, les gens étaient en train de se battre dans les rues, les ouvriers étaient en grève. C'était indécent de continuer à faire la nouba tous les soirs à Cannes. C'est-à-dire, c'est évident, même si on peut regretter effectivement pour beaucoup de cinéastes de ne pas avoir eu la chance de montrer leur film, que les critiques du monde entier étaient venus en avion, etc., ils repartaient sans rien. Néanmoins, je vois pas quelle autre possibilité pouvait se faire. Je pense, c'est pas imaginable dans l'état du pays à l'époque, tel qu'il était, que le festival continue.
La position des critiques a compté. Vous avez parlé de la démission de tel ou tel membre du jury, mais la position des critiques était très importante alors, Michel Simon.
Oui, je pense que la critique, c'est vrai que la critique est plutôt à gauche, en tout cas, oui, je pense la critique de cinéma en particulier est plutôt de tendance de gauche, sinon gauchiste, pas toujours, loin de là, mais elle a bien sûr approuvé cette démarche.
Il y avait des critiques au jury constamment jusqu'en 1988.
Oui, moi je regrette beaucoup, je le répète même dans le livre qui vient de paraître sur Cannes, et cinq, où chacun raconte son année.
C'est les 70 chroniques du 70 festival, chroniques, et je le répète sous la direction de Thierry Frémaux, et c'est fait stock.
Au risque de déplaire à Thierry Frémaux, je lui dis tout le temps, je pense qu'il est important qu'il y ait un critique qui connaît l'histoire du cinéma, qui peut éclairer les autres membres du jury. Il y a des membres du jury qui n'ont jamais vu un film de Ken Loach, par exemple. C'est un fait. Et peut-être leur dire, écoutez, c'est un bon cinéaste, même un grand cinéaste, il a déjà eu la Palme, il fait un film qu'il aurait pu faire il y a 45 ans. C'est un message assez passéiste que vous donnez au monde, en couronnant un film qui est exactement de l'esthétique qu'on faisait en 1970. Il y a des œuvres nouvelles qui tracent des voies nouvelles qui sont plus passionnantes. Mais s'il n'y a pas de critique pour dire ça, moi j'ai été dans beaucoup de jurys, dont Cannes, Venise, etc. Je me suis rendu compte à quel point les jurys sont nerveux, démunis, ils savent qu'ils savent pas beaucoup de choses, etc. Et c'est intéressant, non pas d'avoir une voix prédominante, mais d'éclairer. Or, aujourd'hui, il y a essentiellement des modèles, des top modèles, des actrices, des metteurs en scène souvent de grand renom. Mais je pense que c'est pas mal qu'il y ait un écrivain ou un scénariste ou un producteur ou enfin des gens qui ont aussi une connaissance du cinéma.
Mais cependant, il va falloir vous y faire. On peut juger d'un film sans avoir vu ceux de Miklós Jancsó.
Oui, mais en même temps, je pense que si les gens du Goncourt, par exemple, n'avaient jamais lu un seul roman de Kafka ou de Stendhal ou de Faulkner, peut-être qu'ils se laisseraient avoir par des pseudo-Kafka, des pseudo-Faulkner, et qui couronneraient des livres qui ont déjà été faits et mieux faits.
Alors, dans le genre grognon aussi, Régis Debray, Médium, un papier sur le Festival de Cannes, et il dit avant 68, 68, explique-t-il, c'est une date charnière, Cannes relevait davantage de la graphosphère, avec son président de jury, c'était André Chanson cette année-là, que de la vidéosphère dans laquelle nous sommes maintenant.
Oui, mais ça, je veux dire, moi je trouve normal qu'un média visuel comme le cinéma appartienne à la vidéosphère plutôt qu'à la graphosphère. C'est ce qui fait simplement que les Français, enfin pas seulement les Français, mais par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace, les jeunes de 12 ans comprenaient le film, alors que les gens de 70 ans ne comprenaient pas parce que le dialogue n'expliquait pas ce qui se passait sur l'écran. Et que les jeunes détectaient l'image, comprenaient l'image, un vaisseau se dirigeait vers la Lune, ils voyaient que c'était la Lune et ils comprenaient immédiatement, il n'y avait pas du dialogue. Et beaucoup de spectateurs de 70 ans, ils étaient comme au théâtre, il fallait qu'on leur mâche les choses par des mots. Donc, vive la vidéosphère, même si j'adore la graphosphère.
Le rêve de Michel Simon, un film qui commencerait comme le film des Frères Lumière, on descend d'un train, et puis celui qui est descendu d'un train monte dans une fusée. Merci à vous, le cinéma en partage. Je rappelle ce récent titre sous votre signature, c'est aux éditions Rivage. L'émission a été réalisée par Lise Combe, avec la préparation Franck Olivard, à la technique Henri Bérec.